en position. Seigneur mon Dieu, que Seigneur rien ne puisse venir troubler ces temps. Seigneur, qu'aucune pensée, Seigneur Jésus, vienne traverser nos cœurs, afin que nous puissions être entièrement attentifs à ce que toi tu veux dire. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Soyez à toutes et à tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous continuons notre série de messages sur le thème de la consécration. Cette semaine, j'étais à côté du Mans, à Parigné-l'Évêque, un endroit où on est en zone blanche, on est obligé de tendre le bras, d'être sur un pied comme ça pour avoir du réseau. Mais quelque part, c'est bien parce que ça nous oblige à nous connecter à celui qui est la bonne source. Nous avons eu un temps de jeûne et prière durant ces quelques temps où nous avons pu entendre et être au bénéfice de la parole de Dieu parce que les pasteurs aussi ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous avons eu un frère qui s'appelle Joseph Dimitrov, qui est directeur de l'école biblique de Bruxelles, un frère qui est hongrois, qui parle 4 langues. Moi, j'ai déjà du mal avec le français, mais alors lui, il en a pris 4. C'est un enseignant, c'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance énorme. Il nous a parlé tout au long de la semaine sur la dimension du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu et le pasteur et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Église, enfin, tout un panel de messages. On a eu 8 ans de prédication, à minimum d'une heure à chaque fois. Entrecadré de tout cela, de temps de prière, de temps de jeûne, de temps de prière collective, de temps de prière individuelle, de temps de partage fraternel également, autour d'un café et pas de croissant. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous, non pas ce que le frère a prêché, parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant dans... Enfin, tout était intéressant, mais il y a une chose qui nous a... En tout cas, pasteur interpellé, il disait « Jamais je fais le même message ». C'est impressionnant. Connaissant le frère et qui va de droite, de gauche, qu'il a invité aux États-Unis, en Europe, il intervient même au Parlement européen. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant, mais bon, gloire à Dieu pour le ministère du frère. Moi, je n'en suis pas là. Mais je bénis Dieu pour ces temps et j'aimerais vous partager très simplement ce que Dieu a déposé sur mon cœur concernant le thème, en tout cas, qu'on continue à parler de la consécration. On va lire ensemble le texte de Juges, chapitre 6, verset 34, juste un verset d'introduction au message. Vous connaissez tous Gédéon ? Pas Gédéon, le mari de Marie-Mona, hein, le Gédéon de la Bible. Gédéon. Et dans l'histoire de Gédéon, il y a notamment ce texte où il est dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna du cor ou de la trompette, suivant votre traduction, et le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel pour sonner de la trompette. Mais lorsqu'on prend l'histoire de Gédéon, et nous allons un petit peu en avant, toujours au même chapitre 6, verset 8, il dit « L'Éternel envoya un prophète vers les enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai retiré de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient, je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays, et vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Le livre des juges, c'est le livre où il nous est fait part que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun fait ce qui lui semble bon. C'est pour cela qu'on a des temps où le peuple d'Israël a vécu des victoires et des temps où ils ont connu de profondes défaites. À chaque fois que le peuple a voulu faire ce que lui pensait qu'il fallait faire, sans écouter la pensée de Dieu, à chaque fois, ils ont connu la défaite. Pourtant, Dieu a tout mis en œuvre pour que le peuple d'Israël puisse sortir d'un pays de servitude. Dieu a tout mis en œuvre pour que le peuple d'Israël puisse être délivré de la main des Égyptiens. Dieu a tout mis en œuvre pour les délivrer de tout ce qui les opprimait. Dieu a chassé les ennemis. Dieu leur a donné un pays. Dieu les appelle à être un peuple mis à part. Mais vous n'avez point écouté ma voix. C'est quand même impressionnant de se dire tout ce qu'a vécu le peuple d'Israël et d'en arriver à un point qu'il n'écoute pas la voix de Dieu. Est-ce que dans le peuple de Dieu, on ne peut pas retrouver certaines similitudes ? Dieu a fait des choses pour nous. Dieu nous a délivrés. Dieu a tout mis en œuvre pour que nous soyons vainqueurs. Dieu a tout mis en œuvre pour que nous puissions sortir de l'oppression, sortir de tout ce qui nous empêche d'avancer. Dieu a mis en nous un pays où coule le lait et le miel, des bénédictions, des richesses spirituelles. Il nous promet qu'on va vivre la paix, il promet qu'on va vivre la bénédiction, qu'on va vivre la plénitude, mais chacun fait ce qui lui semble bon. Et après on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avancer. À chaque fois que le peuple se détournait de la pensée de Dieu, à chaque fois, Dieu l'a laissé. C'est terrible d'être laissé par Dieu. Je pense que c'est la chose la plus terrible qui peut arriver dans la vie. Abandonné par Dieu. À chaque fois que le peuple a adopté les pratiques des peuples qui l'entouraient, c'est-à-dire l'idolâtrie et tout ce qui va avec, parce que dans l'idolâtrie, il n'y a pas simplement que la statue, hein. Il y a aussi la manière de vivre, la débauche. À chaque fois que le peuple d'Israël a pratiqué ces choses-là, à chaque fois, il a connu la défaite. Et lorsque nous nous détournons de Dieu, lorsque nous commençons à vivre et faire ce qui est contraire à la pensée de Dieu, le verset 1 de Juges, Dieu nous livre entre les mains de nos ennemis. Il n'y a plus de protection. Parce que la protection, c'est lorsqu'on se tient dans la pensée de Dieu. La protection, c'est lorsqu'on se tient auprès de Dieu et qu'on cherche à marcher comme Dieu veut. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un parfait ce matin ici ? Qui lève la main ? Cyril, t'as levé la main. Ok, on prend un rendez-vous, mon frère, à la fin de la réunion. On ne parle pas ici de marcher, entre guillemets, à la perfection. C'est une attitude de cœur. Mais lorsque mon cœur a cette attitude de vouloir faire ce qui me semble bon, je suis en train de m'opposer à la pensée de Dieu. Et Dieu va permettre que mes ennemis viennent m'assaillir. Non pas pour me faire du mal, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est dire, je vais permettre que les ennemis reviennent dans ta vie pour que tu puisses revenir à moi. Parce que lorsque tout va bien, c'est bon, je vis dans le péché, regarde, il ne m'arrive rien. Mais lorsqu'on commence à être troublé, lorsqu'on commence à dire, oh là là, il y a des choses qui ne vont pas et que je prie qu'il ne se passe rien, c'est parce que Dieu, dans son amour, est en train de tout mettre en œuvre pour que tu puisses revenir à lui. Dieu ne prend pas plaisir à te voir te bagarrer contre tes ennemis. Ça, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que Dieu va permettre, parfois, je dis bien parfois, parce que ce n'est pas toujours le cas, on n'est pas toujours dans une condition d'éloignement de Dieu. Parfois, Dieu peut permettre des temps, des preuves pour nous apprendre à persévérer, pour nous apprendre à lutter dans la prière, pour nous apprendre à combattre, pour nous apprendre à jeûner. Amen. Jeûner, ce n'est pas entre 22h et 6h hein, du matin. Jeûner, c'est prendre un temps à part. La main de l'ennemi devient puissante lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Puisque c'est quelque part... C'est comme si je suis sous un parapluie, je suis sous la protection de Dieu et qu'il pleut. Tant que je suis sous le parapluie, je ne suis pas mouillé. Mais sitôt que je m'écarte de la protection de Dieu, je commence à ressentir les effets de la pluie. Si je m'éloigne de Dieu, l'ennemi a des droits. L'ennemi a des droits. Mais lorsque je reviens sous la protection de Dieu, l'ennemi perd ses droits. Sans Dieu, comme le peuple d'Israël, nous prenons la fuite devant nos ennemis parce qu'on cherche à lutter avec nos forces, mais je pense que parfois nous minimisons la force de notre ennemi. Celui qui veut chercher à nous atteindre, c'est pas, je dirais, c'est pas un petit joueur. Hein. S'il peut vous faire chuter, il ne va pas s'en priver. Il ne s'en privera pas. Il n'a pas de sentiment vis-à-vis de vous. Il ne vous aime pas. Il veut vous détruire. Ça, c'est sa pensée. Mais lorsque je viens à la protection de Dieu, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai en moi celui qui a la capacité de faire fuir mon ennemi. Ce n'est pas moi, c'est celui qui vit en moi. Mon éloignement me conduit à chercher un refuge, un abri ailleurs qu'auprès de celui qui est le rocher des siècles. Mon éloignement, spirituellement parlant, m'amène à rechercher ailleurs un refuge que celui qui est le rocher des siècles. Lorsque je m'éloigne de Dieu, lorsque je m'écarte de la foi, je suis en train de chercher ailleurs un endroit où je vais pouvoir me réfugier. Mais en réalité, il n'en existe pas. Parce que seul Christ est le rocher des siècles. Seul Christ, c'est celui qui a un abri éternel dans lequel je peux venir me réfugier. Le verset 4 du chapitre 6 du livre des Juges nous montre que le travail que je vais faire ne peut porter de fruits si Dieu n'a pas la priorité sur ma vie. Parce que lorsque je suis éloigné de Dieu, je peux travailler, je peux faire un tas et un tas de choses. Mais si je suis éloigné, l'ennemi a des droits pour venir détruire ce que je suis en train de faire. Pour cela que parfois certains, quelque part, font certaines œuvres, même avec un pseudo-spiritualité, mais comme ils sont éloignés de Dieu, ce qu'ils font, c'est l'ennemi qui a des droits pour venir tout ravager. Ce qui va faire que vous portiez du fruit, c'est votre attachement à Dieu. Ce qui va faire que votre travail, ce que vous faites pour Dieu, grandit, porte du fruit et de l'impact, c'est parce que vous êtes attaché à Dieu. Et je sais que votre cœur est attaché à Dieu. Et je vous encourage à rester attaché à Dieu. Tout peut changer à partir du moment où je vais reconnaître mon état. Et me tourner véritablement vers celui qui veut me secourir et me délivrer. Tout peut changer. Ta situation de défaite peut changer à partir du moment où tu vas reconnaître ton état spirituel. Il n'y a rien de plus aveugle qu'une personne qui ne veut pas voir. On ne peut pas soigner un malade qui ne reconnaît pas qu'il est malade. En psychologie, lorsqu'on prend le temps de soigner des personnes, on ne peut manœuvrer, on va dire comme cela, certains leviers qu'à partir du moment où la personne reconnaît qu'elle a besoin d'être aidée. Mais tant qu'une personne ne reconnaît pas qu'elle a besoin d'aide, on ne peut rien faire. De la même manière, spirituellement, tant que je ne reconnais pas que je suis dans la défaite à cause de ma manière de vivre, je ne vivrai jamais la victoire. Mais lorsque je reviens à Christ, à celui qui est capable de me délivrer, alors là, il se passe quelque chose. Parce que ma délivrance, ma victoire, ne dépend pas de mes capacités, mais de celui qui a remporté la plus grande des victoires pour moi. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël ont crié à Dieu, à chaque fois que, lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, à chaque fois que le peuple d'Israël a crié à Dieu, Dieu est venu à son secours, à chaque fois. Parce que dans la phrase, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, c'est qu'à un moment donné, dans leur cœur, ils se sont détournés dans leur cœur, hein, de détourner de ce qu'ils pratiquent et dire « Notre seul secours, c'est Dieu, il faut qu'on revienne à Dieu. » Et dans le fait de crier à Dieu, il y a demandé pardon à Dieu. Parce que ce n'est pas de dire « Seigneur, au secours !» Non, il y a le fait déjà « Je confesse mon péché, je confesse mon erreur, je confesse ma faute. » Ce n'est pas la faute du voisin, c'est la mienne. Et combien de fois dans ma vie personnelle, je dis « Seigneur, pardon !» Pardon parce que je mène parfois des combats que toi tu ne me demandes pas de mener ou je les mène de la mauvaise manière. Et je crie à Dieu pour me sortir de certaines situations difficiles. Ça m'arrive, hein, il n'y a pas que vous. Hein. Moi ça me rassure qu'il n'y ait pas que moi. Je ne sais pas vous si ça vous rassure qu'il n'y ait pas que vous. Mais à chaque fois que le peuple a crié, il s'est passé quelque chose. Amen. Et Dieu a envoyé un prophète. Quand Dieu appelle des personnes à se consacrer et Dieu consacre des vaillants héros. Amen. Est-ce qu'il y a des vaillants héros dans la salle? Ou des vaillantes héroïnes? Il n'y a pas plus de vaillants héros et d'héroïnes que ça. Il y en a qui n'osent peut-être pas lever la main en disant « Je ne sais pas si je suis un vaillant héros. » Est-ce que j'ai le droit de lever la main parce que est-ce que je suis vraiment un vaillant héros? Je voudrais te dire quelque chose. La valeur de ton cœur devant Dieu ne dépend pas de ce que tu penses de toi-même, mais dépend de ce que Dieu pense de toi. Amen. Alors, je repose la question. Est-ce qu'il y a des vaillants héros et des vaillantes héroïnes? D'accord. Alors, je vois de ce côté-là, qui va regarder, je n'ose encore pas lever la main. Je ne sais pas. Vu que vous n'êtes encore pas trop convaincus, les nombreux échecs que nous avons pu vivre ne font pas de nous des hommes, femmes, sans valeur. Amen. Alors je repose la question une troisième fois. Est-ce qu'il y a des vaillants héros? Est-ce qu'il y a des vaillantes héroïnes? Amen. Vous êtes des vaillants héros et Dieu vous appelle et vous a consacré pour être des vaillants héros et des vaillantes héroïnes. La capacité avec laquelle nous savons reconnaître nos échecs, c'est surtout nous amener afin de reconnaître nos échecs, nos défaites. Et le fait d'avoir cette capacité va faire que vous devenez un héros. Si vous savez reconnaître vos faiblesses, vous êtes sur le chemin pour devenir un héros. Gédéon a vu Dieu, révélation de Dieu, mais surtout est vu par Dieu comme étant un vaillant héros. Parce que c'est ce que Dieu va lui dire. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » J'imagine Gédéon, à ce moment-là, faire « On parle de qui ? De moi ? Ben oui, il n'y a que toi, Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et j'aimerais, si vous me le permettez, que vous alliez vers une personne différente de votre conjoint. Je commence à avoir l'habitude, je vous connais. Et de lui dire, tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne. On se laisse 30 secondes pour le faire. Alors, le mot vaillant de l'hébreu gibor, et dis à ton frère, à ta sœur, tu es une ou un gibor. Un gibor, vaillant. Gibor, de l'hébreu, gibor. Qui dit, la définition du mot gibor, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de puissant, tu es quelqu'un de vaillant, tu es quelqu'un qui a de la bravoure, tu es quelqu'un qui est un guerrier, tu es quelqu'un qui a une richesse intérieure. Waouh ! J'aurais peut-être pas dû vous faire lever parce que du monde, il n'y a plus personne dans l'église, ça ne répond plus. C'est comme ça que Dieu vous voit. Vous êtes des vaillants, vous êtes des personnes qui ont une richesse intérieure. Amen ! Là, vous dites amen, hein ? Merci de m'encourager. Le regard de Dieu sur la vie de Gédéon n'est en rien comparable avec le regard qu'avait le peuple sur Gédéon. Et souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est qu'on s'attache trop à ce que pensent les autres de nous. Mais qu'importe, c'est ce que Dieu pense de ta vie. Si Dieu voit en toi un vaillant héros et que les autres voient en toi un vaillant zéro, qu'importe, ils ont besoin d'aller chez un ophtalmo. Dieu voit en toi quelqu'un qui a de la richesse intérieure. Et Dieu veut faire de toi un guerrier, une guerrière. Amen. Oh. Je suis remonté à bloc. Là. pense que ça se voit. Gédéon est vu par Dieu comme étant un héros. On a vu vaillant, parce qu'il y a vaillant héros, mais déjà on a vu vaillant. Héros. De l'hébreu, kahil. Avec ça, vous allez être béni, rien que de savoir ça. Mais voilà ce qui est intéressant dans la définition de l'hébreu. Homme armé. On ne peut pas être un héros si on n'est pas armé. On ne peut pas être une héroïne si on n'est pas armé. Homme armé. Quelqu'un qui est capable, qui est fort, qui a de la force. Personne qui a l'âme d'un soldat, qui a du courage, qui a des qualités vertueuses, quelqu'un de brave et d'honnête. Y a-t-il des vaillants héros? Levez la main, frères et sœurs, parce que vous êtes cela. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez en vous celui qui est le parfait. Et parce qu'il est en vous, vous êtes des vaillants héros. Vous savez, souvent, je pense qu'on prête trop attention à ce que pensent les autres pour faire. On a des standards dans le monde, et quand on n'est pas dans le standard du monde, on a le sentiment d'être en dehors. Le regard du monde, c'est de vouloir nous montrer des choses qui ne sont pas justes. Et parfois, dans nos églises, c'est exactement la même chose. On nous montre aujourd'hui des églises, des méga-churches, en disant, voilà ce que c'est l'église. Mais l'église, ce n'est pas le bling-bling. L'église, ce n'est pas la belle musique. L'église, ce n'est pas les foules. L'église, c'est des frères, c'est des sœurs qui ont été rachetés par Christ. Amen. L'église, c'est une église qui est en mouvement, qui marche de progrès en progrès, qui se perfectionne. Il y a une phrase que j'ai entendue de Joseph Dimitrov cette semaine et qui m'a interpellé. Le mot peut-être être mal interprété, mais comprenez-moi bien. Il disait, on ne doit pas servir Dieu avec professionnalisme. On sert Dieu avec sa force et sa capacité, avec l'esprit. Je ne sers pas Dieu avec mes compétences. Je ne sers pas Dieu avec mon intelligence. Je sers Dieu par l'esprit. Bien sûr, ça n'enlève en rien qu'il faut, en tant que musicien, par exemple, qu'il faut qu'on progresse, qu'il faut qu'on travaille. Un instrument se travaille. On n'en arrive pas à jouer certaines mélodies si on ne travaille pas. Je ne peux jamais jouer de la batterie si je ne travaille pas. Je vais essayer, je vous promets, mais je ne garantis rien. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que parfois, on regarde à ce qui frappe les yeux. Alors que Dieu va dire à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur. Et de la même manière, si le monde voit en toi un vaillant zéro, Dieu voit en toi un vaillant héros. Tu as peut-être des belles capacités, mais ce n'est pas ça que Dieu va regarder, c'est ton cœur. Et si tu n'as pas les capacités de ce qu'a ton voisin, cherche à grandir, parce que Dieu veut faire de toi ce que lui veut que tu sois. Non pas ressembler au voisin, on ne peut pas être des copier-coller, on ne peut pas être des clones. Et Dieu nous amène dans cette dimension à être ce que Dieu veut. L'œuvre de Dieu avance et s'accomplit non avec nos compétences, mais avec et par la puissance de Dieu qui agit en nous. L'œuvre de Dieu avance, non pas parce que tu es le plus beau, tu es la plus belle, tu es la meilleure, mais parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et je crois profondément, et c'était ma prière de toute la semaine, dis Seigneur, c'est toi qui vas bousculer l'Église. Attendez-vous à être bousculé par Dieu. J'ai jeûné pour ça. Hein. Je m'inclus dedans. Parce que ce n'est pas une œuvre d'homme, c'est l'œuvre de Dieu. On veut que des personnes se convertissent. Alléluia, on a notre part à faire, c'est d'être des témoins. Mais c'est Dieu qui sauve, ce n'est pas moi. C'est son esprit qui attire. C'est lui qui va aller chercher les personnes et qui les convainc, ce n'est pas moi. Moi, je suis un semeur et je sème. L'Esprit de Dieu révèle en nous les qualifications que Dieu nous donne en vue que nous devenions des héros de la foi pour sa gloire. L'Esprit de Dieu révèle en nous les qualifications. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, ne doute pas des qualifications que Dieu t'a données. Je pleure, honnêtement, pas physiquement, mais dans mon cœur, lorsque je vois des frères et des sœurs qui doutent de ce que Dieu leur a donné. J'ose pas, j'y arrive pas, je suis pas comme celui-ci. Dieu t'a donné des dons et des talents, ne doute pas, Dieu t'a qualifié, c'est lui qui t'a qualifié. Alors sers, sers dans ce que Dieu t'a appelé. Dieu envoie des hommes et des femmes qu'il consacre. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Juges, chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers Colette et lui dit, « Va avec la force que tu as. » Amen. Tu vas voir tous les voisins du quartier au centre-ville, ils vont voir une Colette qui est différente. « Je vais avec la force que Dieu m'a donnée. » Amen. Parce que c'est Dieu qui t'envoie. Je voudrais te poser une question à laquelle je ne te demande pas forcément de répondre, mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller et de te consacrer à Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller et de te consacrer à Dieu? Zacharie 4:6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Ne cherchez pas à servir Dieu, à œuvrer dans l'œuvre de Dieu par vos forces, mais laissez Dieu faire. Lui, il sait mieux faire que nous. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais dans sa grâce, il nous a choisis pour faire avec nous. Mais il n'a pas besoin de moi. Il peut très bien faire sans moi. Mais il a choisi un instrument avec plein de défauts, pour accomplir son œuvre. Et c'est une grâce. Mais ce n'est ni par force, ni par puissance. C'est par l'Esprit. Nous sommes consacrés pour rebâtir l'autel de la relation. Nous sommes consacrés pour rebâtir l'autel de la relation. Parce que dans l'histoire de Gédéon, il y avait tout cet aspect d'idolâtrie. Et notamment son père, qui avait un autel. Et au verset 25 du chapitre 6, il est dit que dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal, donc c'était la divinité masculine de l'époque. » Renverse l'autel de Baal qui est ton père et abat le pieu ou le poteau, c'est-à-dire le poteau d'Achéra, poteau sacré qui était dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. La relation ne peut être bâtie qu'à partir du moment où j'ai détruit ce qui m'empêche d'avoir une relation. Dans le texte, il nous parlait d'idolâtrie, mais parfois, c'est d'autres choses. C'est d'autres choses qui ont pris place à la relation avec Dieu. Dieu amène Gédéon à plusieurs choses importantes. Tout d'abord, à renverser l'autel, mais aussi à abattre le pieu sacré. Il s'agissait de ne rien garder, tout ce qui détournait le peuple de Dieu. Et Dieu nous demande de briser tout ce qui est contraire à sa pensée dans nos cœurs, dans nos vies. Et je vais vous dire, ça c'est votre travail à vous. Ce n'est pas celui du pasteur. C'est à vous de savoir, de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie de renverser ces choses qui m'empêchent d'avoir une relation avec toi. Et ensuite, tu peux bâtir l'autel. Ensuite, tu peux dire, ben voilà, je vais commencer à bâtir pour pouvoir offrir ce que Dieu me demande d'offrir. Et Dieu nous ramène dans le culte de l'adoration. Dieu nous ramène dans ce temps et de ce moment d'intimité. Parce que nous sommes appelés, consacrés, pour remporter la victoire. Et si je n'ai pas rebâti ma relation avec Dieu, je ne peux pas remporter de victoire. J'ai besoin de rebâtir les choses dans ma propre vie. Et comme je l'ai dit à quelqu'un cette semaine avec qui je discutais, je ne suis pas un directeur de conscience. En tant que pasteur, je ne suis pas là pour faire de l'ingérence dans la vie privée des gens. Je pense que chacun et chacune est en mesure de savoir ce qui a besoin d'être rebâti dans sa vie. Et se dit, mais Seigneur, pourquoi je suis dans la défaite? Et se dit, ben mon Dieu, voilà. Je prends la décision dans mon cœur de tout mettre en œuvre pour rebâtir cette relation. Et parce que je prends cette décision, Dieu te rend vainqueur. Juges chapitre 6, verset 34, on ferme la boucle. Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna du cor et le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Gédéon est revêtu de l'esprit, non pas parce qu'il est le meilleur, mais parce qu'il y a eu tout ce cheminement pour en arriver là. Dieu l'a appelé vaillant héros. Dieu lui a dit, maintenant il faut que tu fasses table rase sur le passé. Parce que l'idole, c'était l'idole de son père. Il faut faire table rase du passé, des choses qui peuvent nous rattacher au passé. Gédéon a rebâti. Et parce qu'il a rebâti, il a été revêtu du Saint-Esprit. Gédéon est revêtu pour servir le peuple. Le revêtement de puissance, il n'est pas pour nous, il est pour les autres. On est appelé à être des serviteurs et des servantes du Seigneur. Être serviteur, servante du Seigneur, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. On est appelé à bénir l'Église. On est appelé à bénir des frères et des sœurs. On ne demande pas les choses pour nous. On est des vases communicants. Dieu nous les donne pour les redonner, pour que d'autres soient bénis, pour que d'autres soient enrichis, pour que d'autres puissent saisir peut-être une victoire, une délivrance. Gédéon va devenir un leader pour le peuple. Un leader, c'est un exemple à suivre. Ce n'est pas celui qui fait ce qu'il a envie, comme il a envie, quand il a envie. Un leader se soumet à Dieu. Un leader cherche la face de Dieu pendant que les autres, peut-être, vaquent à diverses occupations. Un leader se tient dans le jeûne et dans la prière, peut-être pour le peuple qui a du mal à avancer. Un leader va plonger ses regards dans la parole de Dieu pendant que d'autres sont peut-être, et très naturellement et sans problème, en train de vaquer à des moments de détente. Jésus partait prier pendant que d'autres dormaient. Le leader, c'est cela. Le leader, c'est pas dit « je revendique mes droits ». Le leader, il donne sa vie pour les autres. Et Jésus m'a donné sa vie pour moi. C'est le plus grand des leaders qui existait. Mon frère, ma sœur, Dieu veut te revêtir de son esprit. Ça, c'est la réalité. Je martèle le fer. Dieu veut te revêtir de son esprit. Parce qu'il veut te conduire à entrer dans la promesse. Il veut te conduire et t'amener à vivre la victoire que Dieu a prévue de toute éternité. Dieu veut ce matin te revêtir de puissance, non pas pour toi, mais pour lui. Dieu veut te revêtir de puissance ce matin parce qu'il veut faire de toi un vaillant héros, une vaillante héroïne. Et quelles que soient les défaites que tu as pu vivre durant la semaine, Dieu veut faire de toi un vaillant héros. Si tu sais, comme Gédéon, avoir tout ce processus dans ton cœur. Mais rappelle-toi que Dieu voit en toi toutes les qualifications que lui t'a déjà données pour que tu sois un héros de la foi ce matin. Que tu sois quelqu'un qui se consacre pour lui, pas pour les autres. On ne se consacre pas pour une église ou pour un homme. On se consacre pour Dieu. Amen. Je vous invite à incliner vos têtes.